RMC, face aux grandes gueules.
C'est l'hydrologue Emma Aziza qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Emma Aziza. C'est la une du quotidien aujourd'hui en France, Le Parisien. Va-t-on manquer d'eau potable ? Alors je vous pose la question, oui ou non ? Est-ce qu'on peut manquer d'eau potable en France ?
Alors oui, on a déjà manqué d'eau potable dans plus de 1300 communes en 2022. C'était impensable en France il y a encore 10 ans. Et aujourd'hui, on voit qu'on bascule de manière chronique dans une situation. Alors, il y a deux éléments à différencier. Il y a premièrement, parfois, des réseaux qui sont dysfonctionnants. Et donc, c'est pour ça qu'on manque d'eau potable localement dans certains petits villages. Dans d'autres, eh bien, c'est parce qu'on est connecté à une ressource de surface qui est en train de s'épuiser. Et donc là, il va falloir aller chercher de l'eau plus loin ailleurs. Il va falloir réussir à se connecter, en fait, à d'autres masses d'eau qui sont beaucoup plus résiliente face à ces sécheresses. Mmh. Donc, il va falloir essayer de travailler tous ensemble.
Est-ce qu'il va falloir payer l'eau plus cher ?
Et oui, il va sans doute falloir payer le plus cher. Premièrement, parce que ces canalisations, il faut les remettre en état. Et d'autant plus avec ces températures caniculaires, quand il fait 50 degrés sur le sol, on imagine bien que les canalisations à 80 cm dessous, eh bien, sont en train de payer un prix fort. Et donc, il va falloir revoir tout ça, tout simplement pour limiter les fuites. Mais aussi, parce que tout simplement, c'est un système vieillissant. Moi, j'ai rencontré des maires dans des communes qui ont des financements pour réussir à refaire l'intégralité de leur réseau en eau, il leur faudra 30 ans avec les financements qu'ils ont. D'autres, il leur faudra 300 ans. Donc on voit très bien que tant qu'on ne met pas les financements au bon endroit pour refaire l'intégralité de nos tuyaux, eh bien cette alimentation en eau potable qu'on a depuis l'après-guerre, qui semble magique, eh bien est mise en défaut dans certains endroits.
Oui, mais alors, est-ce qu'on doit payer aussi en fonction de ses revenus ? J'exagère un peu, mais il y a des communes, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui tiraient l'essentiel de l'eau pour leur usage personnel, leur grand jardin, leur propriété. Et du coup, certains n'ont plus d'eau, mais ils disent, mais c'est pas moi. Moi, j'ai pas de jardin, j'ai pas de grande propriété. On a vu ça dans le Sud. Ouais. Pourquoi est-ce que finalement, je suis pénalisé, vous voyez ? Est-ce qu'il va falloir faire varier les paiements de l'eau ou pas ?
Oui, à plusieurs niveaux. Premièrement, parce qu'on a un principe français qui est que l'eau paye l'eau. Donc moi j'ai rencontré des maires qui m'ont dit mais on est en 2022, trois semaines après il y avait plus d'eau dans toute la commune et ils m'ont dit non mais vous comprenez bien que je ne peux pas mettre en place toutes les solutions qui économisent l'eau. J'aurais dit mais c'est simple en fait, vous mettez des mousseurs dans les robinets, des réducteurs de débit de douche, vous travaillez sur les toilettes et vous allez tenir deux fois plus longtemps au moins pour attendre la prochaine pluie. Il me dit mais je ne peux pas parce que moi j'ai des factures à payer, j'ai des appels d'offres et en fait si je reçois pas la quantité financière de cette eau que payent les habitants, eh bien, en réalité, je peux pas tenir. Donc, en fait, il y a une sorte de double discours où faut économiser l'eau, il faut faire attention. Et puis, d'autre part, ben, quand même, l'eau, c'est une manne financière qui est très importante. Donc, la logique est en train de changer. On est en train de se dire qu'il faut arrêter de regarder les consommations uniquement, mais regarder peut-être le nombre de mètres carrés. C'est une logique qui est en train de se transformer. Mais surtout, il va falloir, effectivement, avoir un double échelon. C'est-à-dire que ceux qui consomment dans des piscines, c'est déjà le cas, par exemple, sur la Côte d'Azur. On voit très bien que on paye beaucoup plus cher quand on remplit sa piscine. Mais les gens n'hésitent pas à payer et ça permet de financer les fuites.
Fatima Hidbounoua.
Alors, ce qui m'embête un peu, déjà, merci de vous intéresser à ce sujet parce que pour moi, c'est un sujet majeur et qui a été longtemps négligé. La deuxième chose, très souvent, lorsqu'on en parle, on fait comme si ce n'était pas encore arrivé en France, mais on pense à la France, à la métropole uniquement. Mais finalement, quand on regarde, c'est déjà le cas. Si vous regardez Outre-mer, département d'Outre-mer, territoire d'Outre-mer, c'est déjà le cas. Ouais. Et vous vous souvenez, déjà il y a un an, on en avait parlé, il y avait des situations catastrophiques.
C'est quand ils ont de l'eau qu'ils sont contents, hein, de manière régulière. Hein.
Donc il y a déjà ce truc-là où on se dit, est-ce que ça va arriver en France ? Ça arrive en France, puisque voilà, la France n'est pas que la métropole, première chose. Et tout le monde se moquait de Jean-Claude Van Damme. Vous vous souvenez de cette image où il boit de l'eau ? Il dit j'aime l'eau, bientôt il n'y en aura plus. Et tout le monde s'était moqué de lui en se disant mais qu'est-ce qu'il est stupide. Vraiment pour moi il est loin d'être stupide. J'avais un professeur de géographie en prépa qui nous avait dit la prochaine guerre sera une guerre de l'eau. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là?
J'en suis convaincue, ça fait 20 ans que j'étudie le cycle de l'eau. On est actuellement en train de perdre nos réservoirs continentaux. Et d'ailleurs, un chiffre qui, moi, me semble absolument incroyable et qui est fourni par une étude qui est menée par la NASA avec des nouvelles formes de satellites qui nous permettent de mieux comprendre ces jeux de bascule entre les réservoirs, qui nous montrent que aujourd'hui, la surélévation des océans est beaucoup plus liée au fait d'avoir pillé toutes les nappes souterraines, ouais, qu'elles soient superficielles ou qu'elles soient fossiles, et que cette eau qui ne peut plus rentrer par des sols artificialisés, eh bien, elle finit en mer. Eh bien, ce niveau de surélévation est supérieur à la fonte de l'Antarctique, de l'Arctique et du Groenland. Donc, il faut se poser cette question, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre l'eau continentale. C'est le cas partout, les sols s'assèchent. On le voit juste en France, nos petits cours d'eau sont complètement à sec. Ces petits chevelus, c'est ce qui permet de tenir toute la vie dans nos territoires. Et c'est pas avec des grosses canalisations et de la désalinisation qu'on va leur permettre d'avoir de l'eau. Donc oui, on est en train actuellement de se transformer parce que on a considéré la question de la ressource en eau de manière très anthropocentrée. Mmh. On était toujours concentré. On l'est d'ailleurs dans les débats publics. Regardez, vous êtes pro-bassine ou vous êtes contre les bassines. Mmh. On a l'impression que c'est la seule solution qui existe. Puis vous avez les pour et les contre. Je crois qu'il faut mettre beaucoup plus d'intelligence.
Mais vous êtes contre.
Moi, je suis totalement contre et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'est de l'eau croupissante qu'on vient prélever massivement dans une nappe avant que cette nappe soit interdite au prélèvement. Il y a d'autres solutions plus pertinentes. Et donc, je pense qu'au lieu d'avoir une vision très manichéenne, on doit essayer de réfléchir à stocker cette eau. Bien sûr, il y a deux endroits où on peut la stocker. Il y a les nappes massivement. Regardez, je vous donne un exemple sur le bassin de la Garonne. Une expérimentation est en cours et fonctionne. On a pris les hautes eaux dans les cours d'eau quand on a eu des eaux très importantes avec des crues. Et donc, ces hautes eaux ont servi à alimenter artificiellement des nappes. Donc, en fait, on a créé des sortes de bassines là pour pouvoir réussir à remplir les nappes. On est monté de 4 mètres de hauteur dans toute la nappe de la Garonne qui a permis de tenir beaucoup plus facilement la sécheresse. Donc, les nappes sont déjà un réservoir. Les sols en sont un autre. Si vous prenez, par contre, des bassines, on a trois problèmes. Des développements algaires, des développements cyanobactéries, et des développements. C'est très simple, vous mettez de l'eau qui est croupissante. Si vous n'avez pas un système de biofiltration, eh bien, ça ne marche pas.
Oui, mais ne prenez pas les agriculteurs pour des imbéciles. Ce que vous venez de dire, ils le savent parfaitement, ils savent parfaitement le gérer.
Je crois que malheureusement, pour l'instant, on est vraiment dans une logique où on construit un trou, on met de l'eau dedans, on l'utilise avant qu'elle soit interdite. Je pense qu'il faut mettre de l'intelligence. Il y a sans doute des systèmes de récupération d'eau.
Madame, sauf votre respect, l'eau dans les nappes phréatiques, c'est formidable, mais c'est un truc d'universitaire.
Non, je crois pas. Si la région de Toulouse utilise,
ensuite,
je pense que derrière, c'est
pertinent. La dernière grande sécheresse, c'est il y a 50 ans, tout juste 50 ans, 1976.
Oui.
Donc, certes, le problème est réel, mais il faut arrêter avec tout ce catastrophisme écologique qui est un business pour emmerder le monde.
Alors, je comprends, mais alors moi, je suis ni dans la question écologique, ni dans la question politique. J'essaye simplement d'analyser ce qui fonctionne
pardon,
ou pas.
Pardon, madame, une hydrologue en temps normal, on n'en a rien à foutre.
Bon, sans doute. En tous les cas, vous en aurez sans doute de plus en plus à faire quelque chose dans les années à venir.
On est quand même face à aujourd'hui un pays qui est en 70% restriction d'eau. Alors, il va repleuvoir à un moment, bien sûr, mais ça doit quand même nous faire réfléchir sur la manière dont on doit gérer. Regarde, cet hiver, tout le monde a dit, il y aura pas de problème. Cet hiver, on a dit, regardez ce qu'il pleut, il y aura pas de problème, tout va bien se passer au printemps et cet été. Sauf que là, on voit que ça se passe pas bien.
Oui, les bascules
sont violentes. En janvier. Puisque la grande différence avec 76, fin 75, la sécheresse était déjà affirmée par un déficit hydrologique extraordinaire.
Donc tu dis c'est cyclique, arrêtons de nous emmerder, c'est cyclique, quoi, oui, c'est ça.
Il y a sans doute une tendance problématique, et je vais pas contre les arguments de madame qui est une scientifique, mais il faut arrêter de patauger dans ce catastrophisme qui nous tire vers le bas.
C'est du catastrophisme ou pas?
Je crois pas. Je pense qu'il faut du courage, de la lucidité. Je crois qu'il y a des maires qui sont en train de transformer, certains éventrent leur ville pour pouvoir remettre à niveau leur réseau. Et les habitants le comprennent. D'autres, comme le président.
Le réseau, c'est-à-dire, c'est les tuyaux. Les parce tuyaux. Qu'on a une déperdition.
Exactement.
De plusieurs milliards de mètres cubes.
Et ça marche, en fait. Ouais. Si on prend l'exemple du président du département de la Haute-Garonne, on voit très bien qu'il a fait face à ce défi-là en innovant. Et donc, je crois qu'il faut sortir de ce débat clivant. Et il faut aller vers plus d'intelligence, vers le fait de recharger artificiellement, massivement les nappes, massivement les sols. Et ça marche. Il y a des solutions agricoles. Il suffit que vous mettiez des systèmes qui freinent les écoulements de l'eau lorsque l'eau tombe pour que vous infiltriez au maximum. On se rend compte que dans les Hauts-de-France, moi j'ai discuté avec des agriculteurs. agriculteurs, c'est les seuls qui ont tenu face à la sécheresse. Donc, il existe énormément de solutions autres que ce vieux débat qui derrière, je trouve, vient mettre beaucoup trop de tension dans un sujet, alors qu'il faut mettre de l'intelligence.
Avec des éco-terroristes, évidemment, qu'il y a de la tension. Moi, je fais confiance au bon sens paysan, madame.
Écoutez, moi aussi, mais je crois que d'ailleurs, on n'est plus tous des bons paysans de l'époque. Mais si on l'était, en tous les cas, on saurait très bien que les eaux croupissantes ont fait attention et trouvent des
Abel
solutions alternatives.
Question.
Moi, je crois au scénario catastrophe, paradoxalement, parce que toutes les personnes que l'on traite complotistes 20 ans ou 30 ans après les faits, souvent ont raison. Et sur la question du vaccin, on pouvait dire que voilà, on connaît ta position. Moi, ce que je crains, c'est que ce qu'on appelle l'or bleu, et surtout sa partie potable, vient à manquer, et qu'il y ait des profiteurs de guerre demain, des privés, justement, qui vont jouer de ça, au détriment des peuples. Qu'en pensez-vous ? Deuxième point, très rapidement, il y a un débat, notamment sur l'eau utilisée dans les toilettes. Est-ce qu'il faut continuer d'utiliser de l'eau potable ou pas? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Quel est votre avis dessus? Et dernier point, avec cette aridité, le sol est très sec. Il faudrait combien de temps pour qu'il puisse retrouver une perméabilité normale?
Alors pour les toilettes, quand vous allez au Luxembourg ou en Belgique, on se rend compte qu'il y a énormément de bâtiments qui sont aménagés intelligemment. Il faut qu'on retrouve cette intelligence et arrêter de penser que effectivement potentiellement un enfant pourrait venir boire l'eau des toilettes. Et donc il faut qu'elle soit potable. Je pense que c'est un impensé. Je crois aussi que il y a beaucoup de systèmes de réutilisation de ces eaux usées en sortie, par exemple de systèmes hôteliers. En fait, toutes ces eaux qui peuvent être traitées sur place et réutilisées, notamment pour les espaces verts. Il y a énormément de solutions intelligentes à penser. Il y a même des expérimentations qui ont été faites sur la Côte d'Azur pour permettre de filtrer et de renouveler l'eau des douches dans les stations balnéaires. En fait, il faut absolument décloisonner tous ces systèmes qui, effectivement, nous empêchent d'innover massivement. En ce qui concerne la question de la sécheresse, moi, ça fait peut-être plus de 10 ans qu'on se voit et que je vois très bien que de manière chronique, j'observe des choses que je n'observais pas avant. Et donc, la température ne fait qu'augmenter. On a l'impression d'avoir toujours la même une. Moi, le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire. Année la plus chaude. En fait, si ça se répète, c'est simplement que la courbe, elle est linéaire et qu'elle fait que monter. Et donc, le cycle de l'eau s'accélère. Et les switches de passage d'extrême à un autre sont de plus en plus violents. Jamais on aurait imaginé, avec ce qu'il est tombé comme pluie en janvier et février, pouvoir basculer dans un état de sécheresse pareil. On a un peu cette logique de la cigale et la fourmi, où on pense que le stock hivernal va suffire pour l'été, et ça ne fonctionne plus parce que quand vous avez des phases caniculaires, l'atmosphère récupère toute l'eau massivement là où elle trouve. C'est pour ça qu'il faut retravailler nos sols, c'est pour ça qu'il faut retravailler nos terres, pour qu'elles soient le plus perméables possible, et quand l'eau arrive, il faut l'infiltrer, cette eau, massivement. Donc il y a des défis, mais en tous les cas, il y a des solutions, et je peux vous assurer que partout où on les met en œuvre, ça marche. Donc c'est simplement qu'il faut les déployer massivement. Je vous donne un exemple. Les assureurs ne veulent quasiment plus assurer les retraits gonflements des argiles parce qu'il y a trop de fissures dans les bâtiments. Il suffit d'avoir des cuvelages enterrés pour pouvoir récupérer l'eau de pluie lorsqu'elle finit toujours par tomber, pour pouvoir ensuite réalimenter autour le sol et éviter la contraction, ce qui évitera ensuite le gonflement et les fissures. Ça marche, on peut réduire 90% du risque, et pour autant on ne le déploie pas massivement. Donc en fait, on ne manque pas de solutions.
Mais pourquoi on ne les
manque
applique pas
de transformation?
Donc, parce que justement, faire une planification. Maintenant, il faut réfléchir à une planification sur l'eau, sur l'urbanisme d'une manière générale, avec ces changements de température, des hivers qui vont être très pluvieux avec des inondations,
exactement.
Et des étés... En tout cas, tel qu'on les vit pour le moment, et des étés qui vont être très arides. Quoi,
exactement.
Très sec.
Donc, stocker l'eau, c'est pas un sujet. Il faut la stocker de manière à ce qu'elle croupisse pas à l'extérieur, qu'elle soit souterraine. Donc, soit vous mettez des cuvelages enterrés à côté des bâtiments, soit derrière, vous récupérez ce trop d'eau et vous re-remplissez les nappes artificiellement. Mais en tous les cas, il faut vraiment, on est à l'heure où il faut mettre de l'intelligence, il faut arrêter tous ces clivages. On en a vraiment besoin. On voit très bien que nous, à la limite, on s'en rend pas compte parce qu'à Paris, il peut y avoir 40 ans de sécheresse. On a un énorme aquifère à 800 mètres sous nos pieds, qui pourrait potentiellement nous alimenter, qui est une réserve stratégique qu'on n'utilise pas, mais on pourrait ne pas manquer d'eau parce que cette nappe de l'Albien derrière pourrait nous fournir largement. Mais il y a des territoires dans lesquels il n'y a pas de niveau souterrain. Regardez la Bretagne, ce qu'elle vit. Les stocks superficiels sont très restreints. Vous avez deux canicules et c'est fini. On bascule dans une situation où on est obligé d'avoir du citernage.
Merci Emma Aziza d'être venue nous beaucoup. Éclairer merci. Sur cette... guerre de l'eau ou sur cette question, va-t-on manquer d'eau? Merci d'être passé par les GG, par les grandes gueules.